Il est 20h30 à Bujumbura et Maputo, 18h30 à Dakar et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous. Le sommet des BRICS à Kazan, en Russie, l'Afrique du Sud, membre de cette organisation, affiche son plein soutien à Vladimir Poutine. Le président Cyril Ramaphosa qualifie la Russie d'allié alors que l'Occident veut isoler Moscou depuis l'offensive en Ukraine. Les tensions politiques montent au Mozambique, toujours dans l'attente de la proclamation des résultats des élections du 9 octobre. La mission d'observation de l'Union européenne reconnaît des irrégularités dans le processus électoral. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les troupes de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, ont lancé une nouvelle offensive dans le Nord Kivu, une région déjà en proie à une instabilité chronique. Dans l'actualité également, le Soudan, les comptes X, ex-Twitter des responsables des FSR, les paramilitaires suspendus pour apologie de la guerre et pour propagande. Cette guerre qui dure depuis un an et demi se joue aussi sur les réseaux sociaux. À suivre le football, la Guinée exclue des éliminatoires de la CAN U17 pour une nouvelle affaire de fraude sur l'âge de joueurs. Et enfin, musique avec la sélection toujours très attendue d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, qui nous rejoindra dans ce studio. Le Tchad, est-ce la fin de la coalition présidentielle Tchad Uni qui a porté la candidature du président Mahamat Idriss Déby? Le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, va faire cavalier seul aux élections législatives et locales du 29 décembre. Il n'y aura donc pas de coalition aux grandes dames de ses alliés. Ezanzi Koumana.
Le MPS a tenté dans un premier temps de négocier avec une dizaine de partis alliés en vue de former une coalition restreinte. Mais ces négociations n'ont pas abouti. Le parti, un véritable rouleau compresseur pratiquement au pouvoir depuis 33 ans, a finalement jugé qu'il avait trop à perdre. Chacun des 235 partis alliés voulait avoir un, deux ou trois députés, alors qu'il n'y a que 188 sièges à l'Assemblée nationale, pointe Mahamat Zenbada. Le secrétaire général du MPS a donc annoncé hier à tous leurs alliés que son parti allait faire cavalier seul, une décision qui a fait l'effet d'une bombe au sein de la coalition. Le MPS a signé l'arrêt de mort de Tchad Uni, a réagi le président du PDSA, Maloum Yoboïde Djilaki. Il nous a tous roulés dans la farine, a renchéri le président de l'USPR, François Diakombé, en accusant le MPS de les avoir utilisés pour faire élire Mahamat Idriss Déby, puis de les avoir jetés maintenant qu'il n'a plus besoin d'eux. Zenbada leur promet que leur coalition sera reconstituée une fois les législatives terminées. Il faut que chacun compte ses forces, a-t-il martelé, en estimant que l'on crée un parti pour gagner les élections et non pour s'adosser à un autre pour avoir des députés, sans convaincre la multitude de petits partis qui lui sont alliés et qui ne décolèrent pas.
Et hier, c'est Succès Masra, le président des Transformateurs, premier parti d'opposition du Tchad, qui a annoncé son refus de participer aux élections du 29 décembre. Il dénonce un scrutin joué d'avance. La guerre au Soudan, une guerre qui se joue aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux, propagande ou apologie de la violence. Le compte X du général Hamdan Daglo, dit Emeti, le chef des forces de soutien rapide, a été suspendu. Alexandra Branjon.
Sur la page X du général Emeti, on peut lire « Compte suspendu, X ferme tous les comptes qui enfreignent les règles ». Au total, 4 comptes appartenant à des hauts responsables paramilitaires ont été supprimés vendredi dernier par X, celui du leader des FSR, mais également celui du porte-parole du mouvement, ainsi que 2 autres commandants militaires. Selon Mohamed Souleymane, un militant soudanais qui fait campagne auprès des plateformes numériques pour qu'elles soient plus responsables, ses comptes sur X allaient à l'encontre des conditions d'utilisation en publiant des messages ou des vidéos faisant l'apologie de la violence et de la haine. L'année dernière, sous la pression de ce même militant, le groupe Facebook a également supprimé le compte officiel des FSR, accusant les paramilitaires de diffuser de fausses informations. Cette suspension sur X est une victoire, explique Mohamed Souleymane. Selon lui, les paramilitaires dépendent fortement de ces plateformes numériques pour communiquer entre eux, recruter et diffuser leur propagande, avec plus d'une dizaine de messages par jour, en arabe, mais également en anglais.
Au Mozambique, la mission d'observation de l'Union européenne reconnaît des irrégularités dans le processus électoral du scrutin du 9 octobre. Cette déclaration survient au lendemain de la répression d'une manifestation destinée à dénoncer des fraudes électorales et quelques jours après l'assassinat de 2 opposants. La tension politique monte dans le pays alors que l'on attend toujours les résultats définitifs de ces élections générales. Gaëlle Alex.
La mission d'observation européenne a constaté des irrégularités lors du dépouillement et des modifications injustifiées des résultats au niveau des bureaux de vote, écrit le communiqué. Près de 180 observateurs européens ont été déployés dans tout le Mozambique le jour des élections générales. Mais lors des opérations de dépouillement, certains ont été refoulés des bureaux, y compris au niveau national. Ces déclarations donnent du grain à moudre au candidat Venantiu Mondlane. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook ce matin, il appelle à deux nouvelles journées de mobilisation les 24 et 25 octobre pour paralyser le pays. La manifestation d'hier a tourné court. Les forces de l'ordre ont très vite dispersé les rassemblements avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Venantiu Mondlane lui-même en a fait les frais devant son siège de campagne. Hier, dans une autre vidéo, il a accusé les forces spéciales mozambicaines d'avoir tué son avocat, assassiné vendredi avec un autre proche du candidat. Dans la soirée, les États-Unis ont condamné ces meurtres. Nous nous joignons aux partis politiques du Mozambique pour demander une enquête, écrit leur communiqué. Gaëlle Alex Nairobi, RFI.
En bref, en Ouganda, un camion citerne explose sur une voie rapide près de la capitale, faisant au moins 10 morts. L'accident s'est produit dans la localité de Kigogoa, c'est environ à 25 km au nord de Kampala. Le sommet des BRICS à Kazan en Russie, BRICS pour le quintet Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le Kremlin se félicite d'accueillir jusqu'à jeudi sur les rives de la Volga l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie, je cite, car c'est l'occasion pour Vladimir Poutine de montrer que son pays n'est pas isolé et il peut compter sur le soutien de l'Afrique du Sud, car en marge de cette réunion, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié Moscou d'allié et d'ami précieux et de son côté, Vladimir Poutine a rappelé son attachement à l'Afrique. Walid Diallo.
Sur les photos de leurs retrouvailles, les présidents Poutine et Ramaphosa se font l'accolade en souriant. Dès son arrivée, le président sud-africain a mis en avant la proximité entre les deux pays et s'est dit très heureux d'être en Russie. Vladimir Poutine a quant à lui affirmé que les relations entre la Russie et l'Afrique du Sud sont fondées sur un partenariat stratégique global de l'égalité et du respect mutuel, tout en précisant que le commerce bilatéral entre les deux pays avait augmenté de 3% entre janvier et août de cette année. Si l'Afrique du Sud est la première arrivée, le président Poutine n'oublie pas le reste du continent. Il a assuré vouloir renforcer les relations avec les pays du continent africain où Moscou est présent depuis plusieurs années, notamment via le groupe paramilitaire Wagner. Banni par les Occidentaux depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine en 2022, le Kremlin peut toujours compter sur le soutien ou la neutralité de nombreux pays africains. Il doit encore rencontrer les présidents éthiopiens et égyptiens dans la suite du sommet.
Voilà, la Russie qui tente donc de sortir de son isolement autant politiquement qu'économiquement à l'aide des institutions financières de BRICS. Ce matin, le président russe a prôné l'augmentation des échanges en devises nationales pour minimiser les risques politiques extérieurs. C'est l'une des nombreuses promesses que la nouvelle banque de développement peine à tenir. Et pour Bruno Cabriac, directeur général de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, la note trop faible de cette banque illustre ses difficultés.
Alors, cette banque de développement n'a pas réussi à avoir le triple A. Ça la met en désavantage comparatif par rapport à la fois à la Banque mondiale et aux banques régionales de développement, dont le triple A est le principal actif, parce que ça leur permet d'emprunter à des taux bas sur les marchés et de répercuter ces taux bas sur leurs clients. Essentiellement, la nouvelle banque de développement, d'abord, elle a un capital beaucoup plus faible et limité que la Banque mondiale, par exemple. Et deuxièmement, ses actionnaires inspirent moins confiance que les actionnaires de la Banque mondiale ou même des banques régionales de développement qui sont essentiellement des pays développés et des pays solvables. À la Banque mondiale, vous avez une répartition du capital qui est conforme, je dirais, à l'équilibre du monde, peut-être un peu dépassé aujourd'hui, du début de ce siècle, avec une majorité du capital qui est encore aux mains des pays occidentaux.
En parallèle de la nouvelle banque de développement et pour faire concurrence aux institutions financières occidentales, les BRICS ont notamment créé le CRA, ce qui est censé être une alternative au FMI. Pour autant, ce dernier ne semble pas non plus avoir été à la hauteur des attentes.
Premièrement, il a gardé depuis sa constitution une conditionnalité strictement alignée sur le FMI, c'est-à-dire que vous ne pouvez tirer au-delà de 20% de ce que vous avez mis que si vous avez un programme avec le FMI. Donc là, il n'y a pas du tout d'avantage comparatif par rapport aux institutions de Bretton Woods, hein, c'est simplement un complément. Et puis deuxièmement, bah, il n'a jamais été utilisé et activé. Donc là aussi, C'est très en deçà des attentes, à la fois en termes de volume des opérations et en termes d'objectifs stratégiques. Les deux institutions créées par les BRICS, c'est plutôt un bilan décevant par rapport en tout cas aux annonces qui avaient été faites il y a 10 ans.
Voilà Bruno Cabriac, directeur général de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international avec Wely Diallo.
Goma, 98 FM.
Dans l'est de la RDC, les troupes de l'Alliance Fleuve Congo ont lancé une nouvelle offensive dans le Nord Kivu après de violents affrontements contre les miliciens pro-gouvernementaux. Deux localités stratégiques sont tombées sous le contrôle de l'AFC ce week-end. Les forces rebelles ont occupé Kalembe et Ioula dans le territoire de Walikale. Une question préoccupante, ces nouvelles offensives risquent-elles de compromettre les efforts diplomatiques en cours? La correspondance à Kinshasa de Patient Legodi.
Ces positions stratégique située dans une région riche en carrières d'or et des cassitérites, rapproche les affrontements davantage de Pinga, la plus grande agglomération de la zone, située à une trentaine de kilomètres de là. Les crépitements des balles étaient encore entendus ce mardi matin. Ces actions interviennent en plein cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali. Mais l'AFC, par la voix de ses cadres, affirme ne pas se sentir lié par cet accord. Les troupes rebelles disent ne respecter que leur propre cessez-le-feu unilatéral qu'elles avaient elles-mêmes proclamé. Les combats des derniers jours sont, selon l'AFC, une réponse à ce qu'elle qualifie de provocation des milices Wazalendo. Des sources locales indiquent que l'objectif final de cette nouvelle offensive des troupes de l'AFC serait de tenter d'absorber les milices locales et de poursuivre leur progression dans la région. Du côté du gouvernement congolais, on réaffirme qu'il n'y a pas de négociation possible en dehors du cadre fixé par le processus de Luanda, mécanisme qui régit les discussions entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises disent d'ailleurs attendre de la part de la facilitation d'ici au 26 octobre une proposition des concepts des opérations, un document stratégique censé refléter les préoccupations des deux parties. Reste à savoir si cette nouvelle dynamique militaire sur le terrain influencera la suite du dialogue diplomatique. Patient Ligodi, Kinshasa.
Vous écoutez Afrique Soir, 18h42 à Bamako, au Mali. Des frappes de drones de l'armée malienne ont tué hier 5 civils, dont 4 enfants à Inadja Tafane, cercle de Gouma Rarous et dans la région de Tombouctou. Les images des victimes sont particulièrement insoutenables. Aucune précision de la part de l'état-major malien, mais de nombreuses sources locales dénoncent cette énième bavure. David Baché.
Un bébé ensanglanté, tétanisé. Un enfant allongé, en train d'être soigné tant bien que mal. Des habitants d'Inadja Tafane ont filmé les images terribles des victimes. 5 civils tués, parmi eux 4 enfants, dont un nourrisson, et une vingtaine de personnes blessées. Un bilan provisoire, l'état de santé de certains blessés étant préoccupant, fourni par l'association de défense des droits humains Kalakal, et qui correspond aux informations de nombreuses sources locales, souvent membres ou proches de la rébellion du CSP. Selon ces sources, les frappes de drones ont eu lieu aux environs de 12 heures locales pendant la foire hebdomadaire d'Inadja Tafane. Outre les victimes humaines, le marché a été fortement endommagé. L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite. Mais une source sécuritaire malienne confirme, ces frappes ont bien été opérées par l'armée et les victimes sont clairement des civils. À Tinzawaten, il y a 10 jours et avant cela pendant l'été, à Amasrakad puis Douna en mars dernier, à Kidal en novembre de l'année passée, nombreux sont les cas de frappes de drones de l'armée dans lesquels périssent des civils maliens. L'état-major dément systématiquement, assurant viser des cibles terroristes et dénonçant à l'occasion les fausses informations des médias internationaux.
Amadou Nkoufa, le chef de la Katiba Massina du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a répondu à des questions de France 24. Cet important chef djihadiste, actif notamment dans le centre du Mali et au Burkina Faso, dénonce les crimes odieux de Wagner. Il justifie certaines actions de ses troupes et confirme enfin ses projets d'expansion dans le golfe de Guinée. Plus de détails demain matin dans les journaux Afrique de RFI. En bref, en Tunisie, de nouvelles condamnations contre Ayachi Zamel, candidat malheureux à la présidentielle du 6 octobre. Il écope de nouvelles peines de prison, portant à 31 ans de détention les peines prononcées à son encontre pour des affaires liées au parrainage, selon son avocat. Hier, le président tunisien Kais Saied, dont la réélection est contestée, a prêté ses serment pour un second mandat. Direction le Cameroun à présent. Quel est maintenant l'agenda du président camerounais? Que va faire Paul Biya après son retour hier à Yaoundé après 7 semaines d'absence? Un retour qui a mis fin aux spéculations sur son état de santé. À Yaoundé, Polycarpe Samba.
Dans l'immédiat, rien d'officiel n'est annoncé, mais des sources proches à la présidence de la République évoquent un président au travail. Même depuis Genève, où il vient de passer reclus ces 7 dernières semaines, il recevait de Yaoundé des piles de dossiers et des paraffeurs qu'il retournait déjà traiter à diverses administrations, croient savoir les mêmes sources. Mais plus probable encore, et compte tenu de son âge, 91 ans, et des ennuis de santé qu'on lui prête, nombreux estiment que le président va y aller à l'économie et devrait poursuivre sur place à Yaoundé le repos qu'il s'est autorisé à Genève. Dans l'activité du gouvernement, un dossier devrait particulièrement retenir son attention, c'est la préparation en cours du projet de loi de finances pour l'exercice budgétaire 2025. L'agenda politique immédiat, c'est la célébration le 6 novembre prochain de son accession à la magistrature suprême. Le 6 novembre 1982, Paul Biya prenait en effet la suite de Ahmadou Ahidjo comme deuxième président de la République du Cameroun. 42 ans plus tard, il y est toujours et la date est généralement l'occasion de célébrations et diverses réjouissances de la part des militants et sympathisants de son parti, l'ORDPC. Une fête pour lui, mais qui se fait depuis des années sans lui, le président ne faisant souvent aucune apparition ni déclaration. Mais cette année, compte tenu du contexte qui précède cette célébration, d'aucuns font le pronostic que Paul Biya pourrait rompre avec cette discrétion et faire une apparition qui ravirait ses soutiens. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
C'est un camouflet pour le football guinéen. La Guinée qui sortait d'une suspension pour 2 éditions après une fraude sur l'âge et l'identité de 2 joueurs en 2019 vient d'être épinglée à nouveau dans ce même type d'affaires et la Guinée ne pourra pas participer au tournoi qualificatif à la CAN qui se tient en ce moment à Thiès au Sénégal. Tiernoya Diallo.
Dimanche, à la surprise générale, l'UFOA a sorti un premier communiqué excluant les sélections de Guinée, de Sierra Leone et de Guinée-Bissau pour avoir plus de 3 joueurs recalés au test IRM. Mais ces pays ont tout de suite fait appel et ont demandé une contre-expertise. Les joueurs ayant échoué ont été soumis à un autre test dans une clinique identifiée par la CAF à Dakar. Et à la lumière des nouveaux résultats, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont été requalifiés lundi, tandis que la Guinée, dont le nombre de joueurs inéligibles était supérieur à la norme, c'est-à-dire 3, a été disqualifié. Une nouvelle ressentie comme une ultime humiliation. Après avoir raté les 2 dernières éditions, la FEGIFOOT avait pourtant organisé un championnat des moins de 17 ans pour la première fois afin de constituer une belle sélection et signer le retour du Sidi Kadé dans cette catégorie. Mais apparemment, les mêmes pratiques continuent à miner le football des jeunes. Si la fédération n'a fait aucune communication et se refuse à tout commentaire, dans l'opinion, la frustration et la déception se lisent sur tous les visages. Partout, on fustige le favoritisme et l'affairisme dans le choix des hommes. Tiernoya Diallo, Conakry, RFI.
Second épisode de notre série sur les jeunes et les smartphones en Côte d'Ivoire. Nous parlions hier de la dépendance aux écrans des ados. On s'intéresse aujourd'hui aux parents. Quelles consignes donnent-ils à leurs enfants? Binta Diagne s'est rendue dans le quartier Blockhouse. C'est dans la commune de Cocody, à Abidjan.
À la maison, Jean-Michel fait tout pour distraire ses enfants. Les plus jeunes ont le droit de manipuler des tablettes éducatives.
C'est des petites tablettes où nous téléchargeons divers jeux de société là-dedans pour qu'ils puissent se divertir.
Et ici, pas de smartphone pour les ados. Jean-Michel a opté pour l'ancêtre du téléphone portable, dont la seule fonction se limite aux messages et aux appels.
Ici, le contrôle parental sur Internet n'est pas facile. Il y a un téléphone de la maison qui peut l'utiliser pour appeler quelqu'un, une grande personne, en cas de besoin.
Est-ce que vous les avez, entre guillemets, formés pour utiliser ce téléphone?
Oui, il n'y a qu'un seul numéro là, c'est le numéro du responsable de la famille, la personne qui doit appeler. Donc ce n'est pas un téléphone Android, c'est un téléphone basique qui permet juste d'appeler. Ce n'est pas être méchant, bon, c'est juste ils savent qu'en cas de souci, s'ils ont un besoin, ils peuvent joindre quelqu'un déjà.
Gérer les smartphones offerts à leurs enfants est une préoccupation. Le débat s'impose de temps à autre lorsque Jean-Michel retrouve ses amis au maquis la nuit. Parmi eux, Odette est partisane de la rigueur la plus stricte. Tout est une question d'âge selon elle.
Il faut avoir l'âge. Si un enfant a un téléphone à partir de 15 ans, 14 ans, ça ne gêne pas. Offrir ton enfant un téléphone à partir de 7 ans, 8 ans, 10 ans là-bas, mais tu l'amènes à la débauche. Par contre, tu sors là. On est sur les fesses, les quoi. Souvent, nous balance des trucs de marabouts, de porno, de ceci, cela. Cet enfant sera curieux de savoir ce que là, c'est quoi ?
Au-delà de l'âge, c'est aussi la question du mode d'emploi des outils numériques qui est posée, selon Fréjus Zamblé, un coach parental qui accompagne et conseille plusieurs dizaines de parents.
Le meilleur mode d'emploi, c'est inculquer, informer avant de donner. Une fois qu'on renseigne l'enfant au fur et à mesure, à un moment donné, on peut être sûr que, écoute, c'est l'âge, on peut lui donner le téléphone, mais avec un contrat. Tu dois étudier, tu n'étudies pas avec ton téléphone. Tu ne dors pas avec ton téléphone. Tu ne manges pas avec ton téléphone. Quand l'heure d'étude arrive, on dépose le téléphone dans ce que j'appelle le panier à téléphone, qui est un panier qui se trouve à la maison, où et les parents et les enfants mettent leur téléphone quand ils sont à table.
Pour ce professionnel, l'éducation au numérique est aujourd'hui indispensable, mais elle s'adresse avant tout aux parents, eux-mêmes déjà absorbés par ces nouvelles technologies. Binta Diane Abidjan, RFI.
Et justement, à 19h10, ce temps universel, Accent d'Europe va s'intéresser à l'omniprésence des ordinateurs dans les salles de classe. Nous irons en Espagne et en Suède. Une omniprésence qui a entraîné une baisse de niveau, comme le raconte cette institutrice de Stockholm. C'est un reportage d'Otilia Ferré.
Ils se fient à Google, ils ont perdu toute notion d'effort. Le niveau s'est détérioré surtout en lecture, mais aussi en vocabulaire. Aujourd'hui, ils sont exposés aux écrans partout. Je pense que l'école devrait être un lieu sans numérique ou alors qu'il soit réservé à des usages bien particuliers. On est allé trop vite en Suède. Même en maternelle, on parlait de donner des tablettes aux enfants. On aurait dû se préoccuper plutôt des effets à long terme.
Et à 19h40, TU, grand reportage. Nous reviendrons sur l'ouverture du sommet des BRICS à Kazan, Pékin comme Moscou, qui veulent profiter de cette réunion pour durcir leur message envers l'Occident. Décryptage ce soir, Chine, Russie, l'attelage anti-occidental à l'épreuve des sanctions. Un grand reportage d'Anissa El-Jabri, 19h40, donc temps universel. Et puis bien sûr, à 20h10, TU, couleur tropicale, une programmation musicale consacrée aux nouveautés avec un avant-goût, Nono, Manzanza, et ça monte, ça descend.
Wenza fera metasis. Ça monte, ça descend. Hey!
Legend beat.
Halinga jalanda yonge, sende kotsiye na mungungu. Halinga jalanda metre yonge, sende kotsiye na mungungu. Osuval de Omeki, sende kotsiye na mungungu.
Et à retrouver, à écouter à 22h10 heure de Paris dans Couleur Tropicale. Et c'est le moment de retrouver Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, pour notre rendez-vous culture. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie, toujours dans le rythme.
N'est-ce pas? Et pour votre premier rendez-vous hebdomadaire, hein, vous avez déniché des perles rares, encore une fois. La preuve en musique avec le rappeur nigérian Young Sammy pour démarrer cette chronique.
Oui, difficile de faire plus original qu'avec Young Sammy, rappeur nigérian qui connaît un succès phénoménal dans le hip-hop indien. Oui, vous avez bien entendu, c'est à New Delhi que Samuel Morrison, alias Young Sammy, a posé ses valises dès son plus jeune âge et il cartonne avec ses textes de rap en hindi. On va écouter le titre « Batch It » et tenez-vous bien, car ça déménage.
Below me li pehli bar par a let go. Kehti hai unse my name you must guess. Below ma ki ghazab I'm obsessed. Main tension nahi leta never stressed though. Didi hai my voice is an echo. Tu zyada na to soch baby pehlo. Kya peena tujhe neat ya espresso. What's your favorite color? Kehti yellow.
Ah oui, ça démarre fort, hein, ce rap indie de Young Sammy. Après New Delhi en Inde, nous partons à Bujumbura. Vous nous emmenez au Burundi, car on va écouter la chanteuse Mokanzi.
Oui, qui à mon avis n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite sur la scène panafricaine. Son nom de scène, Mokanzi, vient de Mona Walda Kaneza, son nom à l'état civil. En 2016, elle finissait première dauphine du concours Miss Burundi. Et c'est dans la musique que Mokanzi va rebondir. Je vous propose, Sylvie, d'écouter You Know Better, parce que vous le savez mieux. Une chanson écrite par Double J et produite par One Way.
Nari
Oui, c'est agréable cette chanson, rythme compas de la chanteuse burundaise Mokanzi. Et à présent, Hervé, on se dirige vers l'Afrique de l'Ouest, en Guinée plus précisément, pour y écouter Saïfon.
Oui, il a raccourci son nom, Saïfon Baldé. Il dévoile Taoulou, son nouveau morceau qui signifie « Ne pleure pas ». C'est déjà le deuxième extrait de son album à paraître bientôt. Dans cette chanson, Saïfon parle de la réalité des familles confrontées aux dettes ou à l'incapacité de payer leur loyer. Et les fans sont au rendez-vous puisqu'en moins d'une semaine, il a dépassé le million de vues. Taoulou est un hommage à l'amour, à la persévérance, à l'espoir face aux difficultés de la vie.
Voilà, et on reconnaît la langue poulard dans cette chanson de Saïfon. C'est déjà le moment, ça passe vite, de conclure. Hervé, j'ai hâte de découvrir la surprise du chef.
Oui, ça vous dit un peu de Makossa, Sylvie ?
Allez, allons-y.
Allez, pour terminer, on va pour un titre Makossa du chanteur camerounais Saul Brova. C'est marrant parce qu'en 2021, il se faisait connaître avec une chanson intitulée justement Makossa. Mais là, il est de retour avec Zengue, un morceau avec des notes de guitare et des cuivres qui sont très Makossa. Ça peut vous donner des idées pour le week-end prochain, j'en suis sûr. On écoute.
C'est le week-end, we outside and we chilling. C'est le week-end, on a des up pour s'amuser. 24 de love and I see, want to do it for my baby. Laissez-moi passer pour bébé calé, j'ai envie de danser. Got him girls, got him boys, made him go some, go some. Got him girls, got him boys, made him come make me roll down. Got him boys, got him girls, made him go some, go some.
C'est un peu un hommage à Manu Dibango, non ?
Oui, un grand hommage même à Manu Dibango, puisqu'il était fan du grand Manu.
Voilà, et c'est sur cette terre de Makossa que s'achève votre chronique de ce mardi 22 octobre. Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, et on peut retrouver votre sélection sur le site RFI Musique.
Oui, vous tapez musique.rfi.fr, cherchez l'Afro Club, et sinon, vous pouvez aussi faire un tour sur les réseaux sociaux de la Radio du Monde. J'en profite pour saluer Gwenaël Brière, auditeur qui nous écoute à Lomé, au Togo. Et je vous souhaite une excellente soirée, Sylvie.
Pareillement à vous, Hervé Mandina, merci.
Mr. DJ, play me this song tonight, oh. Mr. DJ, play me this song tonight, oh. I owe a day, my people feel this vibe, oh.
Et c'est ainsi que nous refermons cette première édition d'Afrique Soir. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, à la réalisation ce soir, Valentin Blanc.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
comment rebondir après une rupture amoureuse, un examen raté ou un échec professionnel?
Jeudi,
on parle prévention et vaccination contre la polio.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Demain,
apprendre à lire est un véritable défi pour les enfants et une épreuve pour les parents. Est-il possible d'apprendre à lire en s'amusant ?
Jeudi,
mode et création. Comment développer le potentiel de la filière cuir en Afrique ?
8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.